Professeur Isidore Ndaïwel, bonjour.
Bonjour.
À l'indépendance, en 1960, est-ce que l'Église catholique congolaise soutient le mouvement ou est-ce qu'elle n'est pas encore sous très forte influence de la Belgique ?
Et en 1960, l'Église soutient l'indépendance. En fait, le soutien de l'Église commence déjà en 1956. Et en 1956, il y a au moins trois éléments très clairs qui le démontrent. D'abord, le manifeste Conscience africaine, qui est fait par des intellectuels catholiques. Ensuite, il y a la déclaration des évêques, à ce moment-là on disait du Congo et Rwanda-Urundi, parce que ça constituait la même conférence épiscopale, une déclaration disant très clairement qu'on soutient le mouvement d'indépendance des populations. Et troisièmement, c'est également cette année-là que l'Église catholique passe à l'action, parce que en septembre 1956, nous assistons au sacre du premier évêque congolais, Monseigneur Kimbondo, alors qu'au niveau de l'armée coloniale, les Congolais ne dépassent pas le grade de sous-officier et que dans l'administration publique, il n'y a quasi pas de Congolais. Donc la plupart des leaders que nous allons voir, des acteurs politiques, seront en réalité des anciens séminaristes. C'est-à-dire que ça a été la seule filière réellement pertinente pour avoir une formation de niveau universitaire. Ce sont des gens qui ont fait des grands séminaires, mais qui, à un moment donné, n'acceptent plus de rester dans le cadre religieux et qui deviennent des laïcs. C'est ceux-là qui vont constituer la première élite.
Vous pensez au premier président
de la République, Joseph Kasavubu, qui était d'ailleurs le condisciple de l'abbé Malula, Monseigneur Malula, et finalement le cardinal Malula. Mais le phénomène Kasavubu n'est pas unique. Presque tout le monde était ça. Même ceux qui étaient des leaders de gauche comme Gizenga, Antoine Gizenga, qui est un ancien grand séminariste, Pierre Moulélé, qui va mener une action très forte de révolution, c'est un ancien frère joséphite. Donc ce sont des anciens de l'Église.
Sauf Patrice Lumumba, qui lui est formé plutôt à la poste. Hein.
Voilà, Patrice Lumumba, évidemment, c'est un itinéraire atypique dans cette nomenclature des élites congolaises.
De Mobutu à Joseph Kabila, cette église catholique dirigée notamment par Monseigneur Monsenwo s'oppose au pouvoir politique. Quel rôle a joué cette église dans les deux dernières années du régime de Joseph Kabila entre 2016 et 2018 ?
Bon, le rôle joué a consisté essentiellement à défendre la population, à prendre au mot ce qui est mis sous le compte de la démocratie, de la protection des libertés publiques, de la justice. Et donc cette double défense a situé l'Église dans une position quelque peu de l'opposition, parce que justement l'État, ceux qui sont au pouvoir, ne correspondaient pas réellement, si vous voulez, aux vœux de la population.
Que les médiocres dégagent, lance voilà. Laurent Monsenwo, c'est quand même une parole d'opposant en effet.
Oui, que les médiocres dégagent, ces médiocres ayant promis qu'il y aura des élections en 2016, qu'il n'y aura jamais d'autres mandats en dehors de ce qui est prévu par la Constitution, mais qui dans les faits faisaient tout en fait pour faire traîner les choses. Alors à ce moment-là, l'Église s'est retrouvée aux premières loges de l'opposition d'une certaine manière, puisqu'il n'y avait pas autre chose qu'elle pour pouvoir jouer le grand rôle de dire non à ce qui se faisait.
Et quelle est la position à ce moment-là du Vatican et du pape François? Est-ce qu'il freine ou est-ce qu'il encourage?
Le pape est représenté localement par le nonce apostolique, son ambassadeur, et le nonce apostolique a toujours été partie prenante de ce mouvement.
Il est argentin comme le pape?
Argentin comme le pape, le premier, et actuellement un Italien qui l'a remplacé. Ils sont tous les deux, le premier comme le second, dans ce courant.
Donc, Monsenwo et Ambongo sont soutenus par le pape dans leur action.
Tout à fait, pleinement.
Les marches lancées par l'Église catholique ces trois dimanches de décembre 2017, janvier et février 2018, est-ce que c'est anecdotique ?
Ah non, absolument, c'est un tournant important dans la mesure où l'opposition s'est trouvée tout à fait affaiblie et également divisée. Il ne restait plus que la société civile et donc derrière elle l'Église pour prendre une position forte et ferme. Et cela a été possible parce que les élites catholiques catholiques qui ont marché dans cette ligne se sont référés à ce qui s'était passé en 92, où on a eu un scénario similaire. Il y a eu la Conférence nationale souveraine qui avait suscité un grand espoir de changement. Et puis il y a eu la décision de Mobutu d'arrêter les travaux de la Conférence nationale. Et la Conférence nationale n'a pu poursuivre les travaux que grâce à l'action. Et à ce moment-là, le sigle a été créé d'un comité laïque de coordination.
C'est du temps de Joseph Iléo.
Voilà.
Ça, c'est 92, face à Mobutu.
Face à Mobutu. Et puis, lorsqu'on se retrouve dans la même situation, fin 2016, les élections ne sont pas organisées. Le Parlement accorde à Joseph Kabila une année de plus pour organiser les élections. On arrive à fin 2017. Il n'y a toujours rien. Et c'est alors qu'il y a les fameux accords dits de la Saint-Sylvestre. Et là aussi, il n'y a rien de concret qui se passe. Et il a fallu donc qu'il y ait ce coup de force pour obliger la Commission électorale nationale dite indépendante et le pouvoir politique d'aller vraiment vers les élections.
Et c'est là qu'interviennent ces trois marches de décembre
tout à fait.
2017 à février 2018 qui feront malheureusement beaucoup de morts.
Beaucoup de morts, tout à fait.
Quelques mois plus tard, nous sommes en août 2018, Joseph Kabila renonce à son troisième mandat. Y a-t-il, à votre avis, une relation de cause à effet ou pas?
Il y a certainement une relation de cause à effet, parce qu'il y a cette pression forte. Je tiens d'ailleurs à dire qu'il était prévu qu'il y ait des manifestations fortes, plus fortes encore au mois d'août, si jamais il s'était porté candidat. Je pense que cet ensemble d'éléments ont joué dans le sens qu'il est lâché du lest.
Vous-même, professeur, vous êtes au cœur de l'action. En 2012, vous êtes une personnalité officielle puisque vous présidez le sommet de la francophonie à Kinshasa. Vous êtes aux côtés du président Kabila. Et puis quelques années plus tard, en 2016-2017, vous êtes quasiment dans la clandestinité, non?
Oui, en 2012, effectivement, je suis commissaire général du 12e sommet de la francophonie. Mais je n'ai jamais pu imaginer que le président Kabila allait chercher à rester au pouvoir au-delà de son second mandat. Si vous voulez, c'est à partir de ce moment-là que j'ai estimé qu'il était de mon devoir de prendre une position.
Et vous avez pris des risques personnels, non?
Bien sûr, parce que je suis resté 13 mois caché quelque part pour sécuriser l'action que nous menions. Nous fassions tout pour ne pas nous faire arrêter, nous faire prendre, parce que c'est qui risquait d'arrêter le mouvement. Surtout qu'il y avait des menaces claires énoncées à notre endroit en disant qu'il devrait être arrêté, il devrait répondre des actes, c'est-à-dire des premières marches, de la première marche déjà que nous avions organisée où il y a eu 6 morts.
En décembre 2017.
Voilà.
À quel moment sortez-vous de la clandestinité?
Fin janvier 2019, c'est-à-dire au moment où tout s'est terminé.
Après la présidentielle.
Après les présidentielles.
Et les résultats de cette présidentielle, quel bilan vous en faites aujourd'hui?
Je sais qu'il y a, bien sûr, le dysfonctionnement dû à ces élections très controversées. Je l'avoue, mais je pense que c'est déjà un plus que le président Kabila n'ait pas reposé sa candidature, qu'il soit parti, c'est déjà un élément. Qu'il y ait eu tout de même une alternance, même si c'est pas une alternance vraiment souhaitée par la population, mais tout de même il y a eu une alternance. Et nous avons tout de même un certain nombre de signaux positifs quand nous voyons que la population congolaise est maintenant vraiment une population éprise de justice. Quand on voit comment elle défend très fortement l'indépendance de la justice et comment est-ce que dans les réseaux sociaux, la population congolaise vit une soif de la transparence de la gestion publique. Nous pensons que c'est autant d'éléments qui démontrent que cette action n'a pas été vaine et que nous sommes en présence d'un processus qui se poursuit mais qui n'est pas terminé. Dans le sens de la défense du bien commun. Et ça, sur ça, je pense que nous ne bougerons pas. Nous ne changerons pas.
Isidore Ndaïwel, merci.